Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. C'est l'une des informations de la soirée, peut-être la plus importante. L'État a décidé de porter plainte contre la jeune femme qui avait refusé d'enlever son voile dans la cour du lycée Ravel à Paris, dont la rumeur avait dit qu'elle avait été molestée par le proviseur de cet établissement, proviseur qui a démissionné ce soir. Gabriel Attal, qui a rencontré ce proviseur aujourd'hui, vient donc d'annoncer le dépôt de cette plainte.
J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires.
Ce sera notre grand débat ce soir. La France est-elle capable encore de protéger ses professeurs? Est-on capable également de combattre les fausses rumeurs qui provoquent les messages de haine? La police enquête contre ce poison et prévient, même sur Internet, personne n'est totalement anonyme.
Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le traitement de la cyberviolence. Alors il y a des unités qui existent dans la police nationale, qui travaillent d'arrache-pied pour identifier les auteurs d'insultes, de menaces de mort, comme c'est le cas pour ce proviseur. Si certains auteurs nous écoutent, qu'ils sachent que personne n'est anonyme sur Internet et que la police, à un moment ou à un autre, arrivera de toute façon à les identifier, à les interpeller et à les déférer devant la justice.
Et puis dans cette émission, on reviendra sur le témoignage terrifiant et touchant de Laura, rescapée du 7 octobre. Les terroristes la hantent aujourd'hui encore. Elle n'arrive plus à vivre en Israël, mais cette franco-israélienne a également beaucoup de mal à Paris lorsqu'elle vient avec son mari.
Personnellement, après ce qui nous est arrivé, pour nous c'est très dur de trouver un endroit dans le monde où on va se sentir en sécurité. En France non plus, je ne me sens plus en sécurité quand je marche dans les rues de Paris ou si je prends le métro. Mais après, vous savez, aujourd'hui, il y a une question horrible qu'on se demande cyniquement. En étant juif, où est-ce qu'on a le droit de vivre dans le monde sans déranger personne ?
Une question fondamentale, existentielle pour cette jeune femme dont on écoutera en longueur tout à l'heure le témoignage. Bonsoir Johan.
Bonsoir
Olivier. Muriel Waknin-Melki, vous êtes avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais vous avez obtenu, et je voulais qu'on commence par ça, une décision de justice qui va sans doute faire jurisprudence. Elle est importante. Dans ce pays, quand vous qualifiez le Hamas comme les auteurs d'actes de résistance évidents, vous encourez désormais la prison.
Oui. C'est la décision qui a été rendue aujourd'hui, en fait, par une juridiction en Isère et qui est venue expliquer tout simplement que le fait de qualifier les attentats du 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, d'actes de résistance du Hamas était constitutif du délit d'apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aujourd'hui en France de faire une équivalence entre ces actes terroristes et des actes de résistance.
Alors, vous aviez porté plainte précisément contre M. Mohamed Makni, conseiller municipal d'Échirolles. Cet homme donc, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble pour apologie du terrorisme. Est-ce que cette décision, d'abord, est-ce qu'il y a un appel possible, mais est-ce que cette décision peut faire jurisprudence ?
Oui, elle fera jurisprudence si c'est une décision qui est confirmée, parce que je crois savoir que le prévenu, la personne qui a été condamnée, a souhaité faire appel. C'est son droit le plus absolu, hein, bien évidemment. Après, le procureur avait requis notamment une condition d'inéligibilité, une sanction d'inéligibilité, et le tribunal n'a pas suivi sur ce chef-là. En revanche, le tribunal a donné une peine de 4 mois. D'emprisonnement, certes avec sursis, mais c'est quand même une peine de prison. Donc c'est quelque chose qui est très strict, qui permet de dire et de dire de manière très claire, très ferme, ce que l'on a le droit de dire ou de ne pas dire aujourd'hui en France concernant les attentats du 7 octobre. faire l'apologie du terrorisme. Alors, l'apologie du terrorisme, ça veut dire en fait présenter les actes terroristes sous un jour favorable. Les présenter comme des actes de résistance, ça veut dire que finalement c'est quelque chose de positif. Et c'est bien cela que le législateur a eu l'intention d'interdire en faisant un texte qui prévoit une peine qui va de 5 ans à 7 ans. Donc c'est lourd comme sanction. Et le fait qu'une juridiction aujourd'hui française soit venue poser cet interdit est une chose très importante.
Bon, demain, vous serez à Lille, on va en parler dans un instant pour un autre procès. Johan.
Bien, je suis très heureux de cette décision. D'abord, il me semble tout à fait logique. Il est évident que le Hamas n'est pas un groupe de résistance, c'est un groupe terroriste islamiste. Et je suis très heureux, notamment parce que, comme je le dis depuis maintenant le 7 octobre, cela permet de dire que, de manière tout à fait officielle, aux yeux de la justice et donc aux yeux de l'État français, la France insoumise, et notamment des personnes comme Madame Obono, sont coupables d'apologie du terrorisme et sont, comme je le dis depuis de nombreux mois maintenant, les porte-voix du Hamas dans l'hémicycle au sein de notre Assemblée nationale. On peut le dire de manière tout à fait officiel, ça change les choses, même si je le dis sur ce plateau depuis longtemps. Voilà, que ce soit reconnu par la justice, je suis très satisfait de cela.
Est-ce que c'est véritablement le cas? Parce que là, ce qui était noté, c'est pas de dire, c'est pas exactement, pour être précis, de considérer que le Hamas est un mouvement résistant. C'est la résistance du Hamas qui est vraiment qualifiée.
C'est ça. En fait, c'est le fait de dire que les actes qui ont été commis le 7 octobre sont des actes de résistance.
C'est un peu différent
et
que de dire le Hamas.
La personne qui avait tenu ces propos a été évincée de la fédération du Parti socialiste. Et à l'époque, elle a été écartée, suspendue. Je pense qu'ils attendaient la décision. On verra ce que le Parti socialiste décide, s'il réintègre ou pas. Mais le Parti socialiste avait pris l'exacte mesure de la gravité des propos qui avaient été tenus dès le 10 octobre. C'est-à-dire qu'on était 3 jours après les attentats. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Israël n'avait pas encore commencé d'offensive terrestre. Mmh. Donc on ne pouvait pas encore véritablement avoir tout l'emballement qu'on a eu vis-à-vis de la riposte d'Israël. On n'était pas dans cette phase-là. On était vraiment dans la phase où on était dans une espèce de recueillement très fort. Et ces propos-là étaient encore plus choquants.
Alors, Maître, il y a quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, il y a des plaintes qui sont déposées contre des élus de la France insoumise. Pour l'instant, est-ce qu'elles ont été traitées?
Non. Alors, pour l'instant, elles sont toujours. Certaines d'entre elles ont été classées et d'autres sont toujours en cours d'enquête. On a bien compris qu'il y avait une difficulté d'ordre politique pour avancer de manière rapide sur ces plaintes. Certains des propos ne sont pas si compliqués que cela à analyser et il y a pour l'instant une difficulté dans l'avancement de ces plaintes. Et nous attendons effectivement du parquet de Paris qu'il se positionne, et le parquet de Nanterre a été également saisi, d'autres plaintes. Nous attendons qu'il y ait des positionnements qui soient clairs en fait. Et cette jurisprudence qui est intervenue, pour moi, donne aussi un peu le ton. Et elle indique la position que la justice doit prendre parce que les textes sont précis. L'apologie du terrorisme, c'est précis comme infraction. Donc soit on rentre dans le cadre de ce qui est prévu par le législateur, soit on n'y est pas. En l'occurrence, nous y étions totalement. Tiens à rappeler que le dossier a été plaidé par mes consoeurs Laure Bérébi et Cindy Samama.
Bon, demain, dernière petite chose, vous serez à Lille pour tenter également de faire condamner la CGT. Oui. La CGT du Nord, qui dans un tract avait écrit dès le 13 octobre, les attaques menées par le Hamas constituent les réponses provoquées par les horreurs de l'occupation illégale d'Israël.
Mais c'est pareil, en fait, ça vient légitimer en fait, les attaques et tout ce qui légitime les attaques, et c'est ce que nous expliquerons, je serai demain avec mon confrère Benoyesh à l'audience à Lille pour l'expliquer aux magistrats, tout ce qui permet de légitimer les attaques du 7 octobre, si on a une légitimation, c'est quelque chose qui est possible et on n'est pas dans du terrorisme, on serait dans quelque chose qui correspondrait presque à de la résistance. Et de nouveau, on tombe sous l'infraction d'apologie du terrorisme, mais il y a également des propos que nous avons visés comme étant des propos de provocation à la haine. Et là aussi, les mots qui étaient utilisés dans le communiqué que la CGT avait posté sur l'une de ses pages, sur son site, ces propos-là sont pour nous des propos qui sont constitutifs de la provocation à la haine.
On reparlera tout à l'heure d'antisémitisme, d'apologie, d'appel à la haine, parce qu'il y a eu des chiffres qui concernent les universités. Oui. Et il y a des présidents d'universités qui ont été entendus au Sénat cette semaine. Bon. Mais on va revenir sur ce qui est arrivé au proviseur du lycée Ravel dans le 20e arrondissement, qui qui est sans doute devenue cette affaire une affaire d'État grâce aux médias. Ce proviseur, vous le savez, a reçu des tas de menaces de mort. Son blasphème, eh bien avoir demandé à une élève de BTS d'ôter son voile dans la cour. Après des semaines de pression, de menaces, il a été exfiltré, il a été démissionné ou il a démissionné. Dans un communiqué sous-titré « L'éducation nationale n'abandonne jamais ses agents », son établissement a indiqué que le proviseur a décidé de prendre sa retraite anticipée. Il a été reçu aujourd'hui par Gabriel Attal et on va écouter également Nicole Belloubé qui a confirmé d'abord la version de la démission, pour laquelle on peut quand même poser des questions, et puis dire encore une fois, pas de vague, c'est terminé.
Je viens à l'instant de recevoir le proviseur du lycée Maurice Ravel. Il n'a pas démissionné, il est en retrait. Et il doit prendre sa retraite, il est en retrait, il doit prendre sa retraite au mois de juin ou de juillet. Et il est actuellement placé en position d'activité où il est rémunéré. Je continuerai également sur cet axe-là, autour de l'accompagnement de nos personnels, je continuerai à lutter avec fermeté contre le harcèlement. Je le dis clairement ici, le pas de vague, c'est terminé. Nous ne voulons plus de ça dans l'éducation nationale.
D'abord, on pensait que c'était déjà fait, le pas de vague, il n'y en avait plus, parce que Gabriel Attal l'a dit il y a déjà quelques mois. Et puis autre chose, Gabriel Attal a précisé ce soir, encore sur TF1, qu'on lui avait conseillé démissionner. Des gens autour de lui lui avaient conseillé. Donc il a admis quand même que la démission, ce n'était pas de son propre chef totalement.
Bien sûr, le Premier ministre a dit ce soir que certains lui avaient manifestement conseillé de démissionner pour des raisons de sécurité.
Oui, de sûreté.
Donc c'est quand même extrêmement grave, parce qu'effectivement, le gouvernement considère, comme ce proviseur, manifestement, qu'il aurait pu subir le même sort, par exemple, que Samuel Paty. Et quand on entend la sœur de Samuel Paty, par exemple, auditionnée il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, quand elle disait « à quoi a servi la mort de mon frère ?», eh bien manifestement, elle n'a hélas servi à rien, puisque nous voyons que nous sommes aujourd'hui dans la même situation et que l'islamisme a même peut-être encore gagné du terrain depuis la mort de Samuel Paty.
Je disais tout à l'heure, l'État va porter plainte. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour diffusion de fausses informations.
C'est bien, pour dénonciation calomnieuse, c'est ça. C'est bien, c'est quelque chose d'important et c'est bien de le faire, de fort, de symbolique. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'attire votre attention sur le fait qu'on s'est habitué finalement à ce que certains enfants français soient obligatoirement déscolarisés lorsqu'on n'arrivait plus à assurer leur sécurité. Je parle ici des enfants de confession juive qui ont quitté petit à petit les établissements publics dans nombre de nos grandes villes sans que cela n'émeuve finalement grand monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'observe que ce sont les professeurs. Le problème est en train de se décaler. Il n'y a quasiment plus d'enfants juifs dans plusieurs grandes villes de France dans les établissements publics. Et j'observe maintenant que la phase suivante, ce sont les professeurs qui vont devoir quitter ces établissements-là parce que l'État n'est plus en mesure d'assurer leur protection.
Je voulais qu'on écoute la réaction des élèves et d'une professeure de cet établissement. Et vous allez voir que c'est... nous, on a une réflexion autour de ça en disant, bon, ce proviseur, le pauvre, il n'a pas forcément été soutenu comme il fallait par l'État en temps et en heure. Aujourd'hui, c'est le cas. Gabriel Attal, Nicole Belloubet, etc. C'est mais vous allez entendre quand même les réactions.
On trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon professeur.
Je m'attendais pas à que ça prenne une aussi grande ampleur.
Des menaces de mort, il aurait jamais dû en recevoir.
Il y a une pression d'enfer, il est sur les réseaux sociaux, mis à mort sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible.
Vous avez des collègues à vous qui soutiennent pas forcément le proviseur ?
Non, pas vraiment, qui n'ont pas trop envie qu'on monte ça en épingle.
Vous vous rendez compte ce qu'elle dit, cette dame, cette professeure, dans la salle des profs ? Tout le monde n'a pas soutenu totalement ce proviseur. Disant, sans doute, il y a un soupçon. Peut-être qu'effectivement, la rumeur est peut-être vraie, etc. Peut-être qu'il a mal agi. Peut-être que, et surtout, il n'aurait pas dû lui demander d'enlever le voile. En réalité, c'est ça.
Mais peut-être que ces professeurs ont également peur. Parce qu'il peut y avoir effectivement des représailles contre ce lycée, contre ceux qui travaillent dans ce lycée. Ce qui s'est passé avec Samuel Paty a laissé des traces. Tout le monde y pense, évidemment. Tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires pensent à cela. Pourquoi un certain nombre de professeurs, maintenant, refusent de plus en plus ou se contraignent à ne plus enseigner certains pans de notre histoire précisément parce qu'ils ont peur? Et c'est là l'une des victoires, d'ailleurs, de l'islamisme, de ces islamistes radicaux. C'est que la peur est en train de s'installer s'installer durablement dans le pays et que nous commençons, à cause de cette peur, à changer notre mode de vie.
Et ben c'est exactement ce que disait Didier Le Maire, ancien prof de philo à Trappe, lui aussi menacé de mort et placé sous protection policière en 2021. Les islamistes ont, selon lui, atteint leur cible.
Voilà.
L'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de l'émancipation, c'est celle qui permet de devenir citoyen. Et c'est donc la première cible, je pense, pour les islamistes aujourd'hui, c'est de fracturer cette école. En fracturant l'école, on fracture la nation, on monte une communauté, des individus qu'on assigne à une identité contre la communauté nationale. C'est la victoire de la rébellion sur l'autorité, sur la règle et de façon générale sur la loi. Les chefs d'établissement sont en première ligne pour faire appliquer les textes et donc ils sont les premiers visés.
Et il ajoute encore, je voulais qu'on l'écoute, notre démocratie est en danger, Didier Le Maire à nouveau.
Parce que j'ai été contacté par de nombreux enseignants qui ont eux-mêmes été menacés et qui se sont trouvés seuls, j'ai décidé de créer une association pour les défendre, Défense des serviteurs de la République. Et cette association, elle défendra non seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires, tous les lanceurs d'alerte, les élus, les citoyens qui sont menacés pour défendre les principes
même
républicains.
Même les magistrats.
Y compris les magistrats. Donc nous avons Gilles-William Goldnadel, Thibault de Montbrial, Caroline Valentin et d'autres avocats qui ont rejoint ce pôle pour défendre juridiquement ces personnes menacées. Nous les défendrons aussi moralement parce qu'il ne faut pas qu'elles restent dans le statut de victime et qu'elles restent seules. Et nous les défendrons aussi financièrement et matériellement comme nous pourrons le faire.
Voilà, Didier Le Maire, en fait, il a annoncé la création d'une association qui ressemble un peu à l'OJE, en quelque sorte. Alors, qui va s'appeler je vais retrouver son nom. Bon, tout à l'heure, je retrouverai son nom.
Mais c'est très bien, ce sont des initiatives citoyennes que je trouve salutaires, en fait. Et je le dis souvent, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et c'est bien aussi qu'on ait des réveils au niveau des citoyens et que les gens se prennent aussi en main. Et le milieu associatif, quand il est bien inspiré comme ce que j'entends, je salue, mais véritablement.
L'association s'appelle Défense des serviteurs de la République. Donc, pour tous ceux, tous les professeurs, tous les enseignants qui sont menacés de cette
manière. Il y en a.
Mais pas seulement, tous les fonctionnaires également. Et en fait, il se dit que ça va forcément se passer. La suite, il y aura encore des
menaces. Il y en a déjà. Nous, on a eu quand même pas mal de remontées de professeurs qui avaient les plus grandes difficultés dans certains établissements à enseigner. Avec des prises de risques, avec des menaces, avec des propos qui frôlent et qui frisent en fait des propos racistes ou des propos à caractère antisémite. Donc on est toujours destinataire de toutes ces plaintes-là. On les entend, on les reçoit, on les écoute. Mais on constate aussi que l'État derrière et certains rectorats en fait. La hiérarchie n'est pas au rendez-vous pour soutenir ces professeurs-là. Ils se sentent très seuls, bien souvent.
C'est ce qui est sous-entendu aussi dans les propos de la professeure qu'on a entendu tout à l'heure.
Absolument, mais vous dites, Olivier, Didier Le Maire qui crée cette association s'attend donc à ce qu'il y ait d'autres cas comme celui-ci. Mais c'est beaucoup plus grave que cela. On voit bien que c'est toute la société qui est en train de s'organiser pour faire face à une montée de l'islamisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. La société s'organise parce que nous voyons collectivement venir. Le gouvernement le voit aussi, mais manifestement pour l'instant, il n'a pas trouvé la parade et il n'est pas en capacité d'assurer véritablement et la sécurité des Français et la sécurité de ceux qui travaillent pour l'État et donc pour la France. Donc la société s'organise pour faire face effectivement à une recrudescence de ces actes violents, de ces attentats, de cet entrisme islamiste dans les établissements publics, dans les établissements scolaires. C'est véritablement, je vous le dis encore une fois, notre mode de vie qui est maintenant directement impacté.
Mais où est la solution? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit, bon, on mettait la poussière sur le tapis. Parce que là, c'est la raison pour laquelle Nicole Belloubet a rajouté pas de vague, encore une fois. Mais on fait quoi? On fait comme s'il ne se passait rien? On évite les conflits, on évite de demander à des jeunes femmes d'enlever le voile pour éviter justement les menaces de mort? Qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais moi je vois qu'on fait des choses. Vous voyez bien, il y a des réactions qui s'organisent, il y a des gens qui s'organisent, qui se structurent. Donc il y a bien une prise de conscience qui est en train de se faire et il y a bien une réaction Il y a une réaction citoyenne qui est en train d'émerger. Donc, de manière naturelle, je pense qu'ensuite, au niveau étatique, ça devrait suivre. J'espère que ça suivra. Et la plainte qui est annoncée en dénonciation calomnieuse, c'est un point, et c'est un point important.
Vous avez un nouveau voisin, François Pouponi. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur l'ancien député, vous avez raté un peu le début du débat, mais on va le rattraper. Votre commentaire sur ce qui s'est passé avec ce proviseur, évidemment, nous intéresse. Il a été lâché et rattrapé au dernier moment par Gabriel Attal ce soir, qui lui rend hommage.
Sur ce sujet-là, la haute administration de l'éducation nationale ne sait pas gérer des dossiers. Ils ont une espèce d'incapacité à réagir, à savoir, j'ai toujours pas de vague, voilà. On sait pas, ils savent pas faire. C'est pas le premier incident que l'on a, hein. Le nombre de professeurs qui ont été confrontés, si j'ai comme ça, peut-être moins grave que celui-là, mais qui ont alerté dans une espèce de déni institutionnel, c'est une réalité.
Mais on sait ce que c'est en France, la menace de mort. Mais enfin, on a eu deux professeurs qui ont été tués quand même. Deux professeurs qui ont été tués. Et déjà, on avait dit pas de vague, c'est terminé.
Ben oui, mais il y a une espèce de d'incapacité pour ce mastodonte, hein, qu'on appelle national, d'être capable d'appréhender ces problématiques-là. C'est toujours vu de très loin. On essaye de calmer les choses.
Vous n'avez pas entendu tout à l'heure la professeure de cet établissement, lycée Maurice Ravel, disait, mais dans la salle des profs, vous n'étiez pas tous d'accord. Hein. C'est pas tous la même chose de ce proviseur, et certains pensent qu'il a eu tort.
Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Y compris l'entrisme des réseaux de l'islam radical dans l'éducation nationale, c'est une réalité. Il y a une présence, et puis il y a des gens qui disent, mais ouais, on aurait peut-être dû les laisser, pourquoi on leur demande d'enlever le voile? L'éducation nationale, c'est pas uniformité de la pensée, c'est au contraire la diversité de la pensée. Et on voit bien qu'au sein des établissements, c'est compliqué, que l'administration au plus haut a du mal, et qu'on sait pas gérer le phénomène.
On peut plus apprendre comment. Chaque mot doit être pesé. On peut plus parler de la Shoah, on peut plus parler du corps humain, on peut plus parler de tas de sujets. Enfin, on va où en fait?
Peut-être un peu d'espoir quand même. Moi, j'insiste, hein, je me permets d'insister. Il y a cette prise de conscience. Oui. Il faut l'encourager.
Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter? L'entrise, les coups de boutoir
Non, Olivier. Et d'autant que, vous savez, je vous l'ai dit, on suit certains professeurs. Il y a des demandes de mutation qui ont été faites par certains professeurs qui ne sont pas exaucées. C'est-à-dire, ce n'est pas des professeurs qui veulent quitter l'éducation nationale, ils veulent juste changer d'établissement. Et c'est un nom qu'on leur oppose, alors qu'il y a véritablement de bonnes raisons d'obtenir ce type de mesures. Donc, il y a une prise de conscience au niveau des citoyens, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'État. Il faut que ça aille plus loin que le dépôt de plainte qui est annoncé. C'est bien, encore une fois, mais c'est peut-être un effet d'annonce aussi. Donc, il faut qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises derrière. Et il faut, au-delà de tout, qu'on remette les valeurs à leur place, qu'il y ait de nouveau de l'éducation qui soit faite, de nouveau le rôle de la justice, et j'insiste.
Si les proviseurs n'arrivent pas à faire régner l'ordre républicain dans la cour, il faut quoi? Il faut une police républicaine?
Le problème, si je peux permettre, c'est que les réseaux fréristes en particulier ont décidé d'attaquer l'éducation nationale, de pousser la République jusque dans ses retranchements, pour voir jusqu'à où ils peuvent aller. Et puis si un jour ça bloque vraiment, ils créeront des écoles privées hors contrat et ils reprendront leurs enfants pour les éduquer à côté. La stratégie, elle est écrite, elle est limpide. Et aujourd'hui, l'institution ne répond pas, on voit bien. Et donc là, les fréristes qui ont mené un peu ce combat, ils ont gagné une nouvelle étape. Et ils attendent la prochaine. Et donc, ils vont pousser à chaque fois la République dans ses retranchements. Et si
donc,
la République...
Là, ce soir, fréristes 1, République 0.
Ah bah, c'est... Oui, si vous voulez, dans la mesure où ce proviseur n'est plus en état d'exercer ses fonctions, même s'il était à quelques mois de la retraite, enfin, sans cet événement, il serait encore proviseur de ce lycée. Donc le fait qu'il soit obligé de battre en retraite, en fait, parce que c'est ça, c'est battre en retraite, eh bien montre bien effectivement que là, l'islamisme a gagné. Donc quand le gouvernement dit depuis des années, matin, midi et soir, ils ne passeront pas, nous ne laisserons pas une minute de répit à l'islamisme, là, en l'occurrence, je suis désolé de devoir le dire, mais si, ils sont passé.
L'antisémitisme à la fac. Alors, cette semaine, France Université a fait le bilan. Depuis le 7 octobre, 67 actes antisémites ont été relevés dans des établissements du supérieur, soit deux fois plus que l'année universitaire précédente, 2022-2023, qui ont conduit à 8 plaintes. Et vous allez écouter le récit du président des universités de Strasbourg, parce qu'il était interrogé à l'Assemblée. Strasbourg, il y a une importante communauté juive, et Strasbourg a été la fac qui a, semble-t-il, connu le plus d'incidents.
Je suis malheureusement la seule université de France qui a connu, il y a 2 mois, des violences physiques contre des étudiants juifs. Nous avons pratiquement tous les matins, ce matin encore, à enlever des tags. Je le fais à titre personnel toujours très, très vite. Les tags sont souvent à la limite, n'est-ce pas, des propos antisionistes, mais derrière on voit ce qu'il y a. Il y a aussi des menaces de mort contre des personnes. Donc on est dans un climat qui est plus tendu. Cela dit, le nombre d'actes, s'il est en augmentation, ne met pas à feu et à sang les amphis.
Les amphis sont pas à feu et à sang, c'est-à-dire que c'est pas comme à Sciences Po, j'ai l'impression qu'il veut faire référence à ça, il n'y a pas eu un amphi Gaza. Cela dit, menaces de mort, pas rien.
Et puis il faut se mettre dans la peau des étudiants, en fait.
Violence physique.
Ah oui, à Strasbourg, clairement, il y a eu 2 cas d'agression physique qui ont été, je crois, jugés. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui vient pourrir le quotidien de nos étudiants. On avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, les écoliers, les collégiens, les lycéens qui ont quitté les établissements publics dans lesquels ils n'arrivaient plus, les écoliers, les collégiens, les lycéens juifs, de confession juive, qui n'arrivaient plus à être dans ces établissements pour des problèmes de sécurité. Donc on est obligé de placer ailleurs, d'exfiltrer. On a maintenant le problème qui s'est déplacé sur nos universités. On a exactement ce qui se passe aux États-Unis, qui se passe depuis quelques temps maintenant dans nos facultés à Sciences Po et ailleurs. Je sais que demain, une conférence est organisée à l'UPEC Paris 12. L'UPEC Paris 12, c'est la fac de droit de Créteil. Avec Jean-Luc Mélenchon qui est organisée. Le thème n'a pas été donné. Cette conférence va se tenir. On sait d'ores et déjà...
Visiblement, le directeur n'était pas au courant.
Le directeur n'était pas au courant. Mais enfin, ça se passe dans son université, dans ses locaux. Alors aujourd'hui, il en est informé. Et puis la manifestation, la conférence va se tenir. Elle n'a pas été interdite, à ma connaissance, à cette heure-ci, elle n'a pas été interdite, elle n'a pas été annulée. Et on sait très bien ce que ça va drainer derrière. Pour les étudiants de l'UPEC à Créteil, c'est compliqué. Nous, on a plein d'étudiants qui nous font des signalements de ce qui se passe. Des blagues antisémites, des blagues antisionistes, du fait qu'Israël est un État génocidaire. Tout ce qu'ils entendent au quotidien, ils n'arrivent plus à aller en cours tranquillement. Ça, c'est pour l'UPEC à Créteil, mais on a la même chose à Nanterre, on a la même chose à Évry, on a plein d'informations qui nous remontent de ces étudiants qui n'arrivent plus à étudier sereinement. C'est ça la réalité.
C'est quasiment 6 mois après le 7 octobre.
Depuis le 7 octobre, et la réaction tout à fait justifiée de l'État d'Israël, les antisémites s'en donnent à cœur joie. La parole est libérée, ils sont complètement désinhibés, et partout. Et donc, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient, ils l'ont. Et donc, ils vont faire la chasse aux juifs partout. Et c'est la terreur. Faire en sorte que les jeunes juifs ont déjà quitté l'école publique depuis longtemps, dans un certain nombre de territoires, ils vont quitter l'université. Voilà, et la stratégie, c'est là, c'est faire partir les juifs.
Il y a une stratégie, c'est ça que je remarque.
Y compris politique.
Olivier, je voudrais juste préciser un point sur les menaces de mort, très court.
Mais juste après, parce qu'il est 21h31, d'accord, et que Simon Guilain est là pour rappeler spécifiquement à François Pupponi, qui avait un tout petit peu de retard, quels sont les titres de l'actu.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Une 20aine d'établissements scolaires de nouveau menacés d'attentats à Paris aujourd'hui. Il s'agit de plusieurs écoles situées dans les 13e, 15e et 19e arrondissements de la capitale. La police est intervenue pour lever les doutes sur chaque situation. À Grenoble, un homme de 20 ans est activement recherché par la police, suspecté d'être l'auteur de plusieurs viols et agressions sexuelles. L'individu a été aperçu entièrement vêtu de noir et circulant sur une trottinette. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre le 22 janvier et le 16 mars sur des jeunes femmes âgées de 20 à 27 ans. Et puis Gabriel Attal envisage de réduire la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. Le Premier ministre s'est exprimé chez nos confrères de TF1 ce mercredi soir. Le chef du gouvernement a demandé à sa ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations à ce sujet. Il souhaite que la durée d'indemnisation ne descende pas en dessous de 12 mois.
Alors, merci Simon, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de grosse annonce ce soir de Gabriel Attal. Il a simplement dit qu'il faut atteindre les 3% de déficit promis, juré, on va le faire d'ici 2027. Il n'a pas donné la recette miracle. Il a simplement donné des pistes. Donc la durée d'indemnisation des chômeurs,
on va passer, réduite.
Hein, 18 à 12 mois. Absolument. Il a dit aussi qu'il faut sortir du carcan des 35 heures, c'est grosso modo ce qu'il faut retenir.
Alors après, ce sont les partenaires sociaux qui vont entrer dans des négociations. Donc ils vont décider s'ils parviennent à se mettre d'accord. Mais le Premier ministre a clairement dit que sa préférence allait vers une dégressivité des allocations et donc une réduction de la durée de cette indemnité.
Allez, on écoute Gabriel Attal.
Il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année.
Il y a trois grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler plus long, davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue qui n'est plus 24 mois. Mais... Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes.
Voilà, donc ça c'est la principale information, l'indemnisation chômage. Il aurait pu annoncer ce soir le gel du point d'indice des fonctionnaires, parce que ça fait à peu près, ça aurait été une économie d'environ 10 milliards, hein, je crois.
Il faut globalement 50 milliards. Si on veut atteindre les 3%, il faut 50 milliards.
Et alors, est-ce qu'il a annoncé là ce soir, on les a ou pas?
Ah non, de là. Mais après, les grandes masses, on les connaît, ce sont les dépenses sociales.
Sociales, oui.
Bon.
C'est quoi, 30%?
Oui, sur 400 milliards, on peut faire beaucoup d'économies, mais en faisant de la casse sociale. C'est le bloc des collectivités locales, 80 milliards à peu près de dotations.
Qui sont déjà à l'os.
Qui sont déjà à l'os, mais on sent bien que le président, depuis 2017, en rêve, hein, lui, c'est un peu. Et puis, c'est le logement. 40 milliards de dépenses. Et ça aussi, le président, depuis... Alors là, le ministre du Logement a annoncé non, on ne touchera plus aux APL. Mais on voit bien que si on veut trouver 50 milliards, ce n'est pas les petites... Enfin, il faut en faire des petites économies.
Non, mais il faut faire des grosses économies.
Mais il faut taper dans les grands budgets et ça va faire très mal.
Bon, donc c'est quoi alors?
C'est le remboursement des médicaments ou pas? On peut modifier...
Les transports sanitaires, notamment.
Les transports sanitaires.
6 milliards d'euros par an.
C'est le chômage qu'on va réduire. Et puis, c'est des dotations aux collectivités locales qu'on ne donnera plus. Voilà. Et avec ça, on est capable de trouver, mais je répète, ça sera extrêmement douloureux.
Les aides aux entreprises, par exemple.
Mais quand le gouvernement dit nous n'augmenterons pas les impôts, nous n'augmenterons pas les taxes, ouais. S'il décide de réduire les dotations aux collectivités, ce sont les collectivités qui augmenteront les taxes. Donc, de fait, ça sera une perte de pouvoir d'achat pour les Français.
Moi, si je viens d'écouter Gabriel Attal, il a dit objectif retour au plein emploi, parce que quelqu'un qui est employé, c'est des taxes, c'est des impôts pour lui, pour son employeur, etc.
La charge sociale moins importante. Mais pour ça, il veut lui obliger les gens à reprendre l'emploi et donc en diminuant.
Quel que soit l'emploi.
Comment on oblige les gens à reprendre l'emploi?
Quand vous ne touchez plus le chômage.
Ah oui. Quand vous n'avez plus de revenus.
Vous prenez le boulot qui vient.
Bien sûr.
Donc c'est ça la stratégie. Coupe le chômage.
C'est faire des économies sur l'indemnité chômage. Et pratiquement obliger les gens à reprendre du boulot.
La stratégie, c'est de dire si au bout, par exemple, de 12 mois, vous n'avez pas trouvé un travail qui vous correspond, le même poste que celui que vous occupiez avant, eh bien, vous devez vous reconvertir, changer de métier pour accepter le travail disponible.
Bon, on va marquer une pause et vous entendrez le témoignage de Laura, donc rescapée de l'attaque terroriste. C'était un témoignage poignant, c'était un témoignage terrifiant. C'était ce matin dans l'heure des pros. Vous restez bien avec nous. Ce matin, il y a eu un moment très fort. C'est lorsque Laura Blajman-Kada, rescapée de l'attaque terroriste du Festival Nova, est venue raconter son histoire sur le plateau de Pascal Praud. D'abord, le moment où elle s'est vue mourir avec son mari.
Vers midi et demi, c'est la fois qu'un des terroristes regarde par la fenêtre et mon mari parle arabe. Et il entend dire « il y a des vivants, venez ». Et mon mari me regarde les yeux dans les yeux et il me dit « c'est terminé ». Donc je prends mon téléphone et incapable de dire à mes parents. Donc j'envoie un ami un message et je lui demande de donner le message le moment que ce sera vraiment terminé. De dire à mes parents et à mes frères que je les aime énormément et je m'excuse d'avoir menti jusqu'à la dernière seconde. Mais je ne voulais pas leur dire adieu avant que ce soit vraiment sûr. Et j'arrivais pas à penser à ça puisque si maintenant dans 5 minutes je vais recevoir une balle, pour moi, ce sera terminé très vite. Mais qu'est-ce qui va arriver au moment que quelqu'un va venir à mon petit frère au milieu d'un festival et va lui dire « Tu n'as plus de sœur ». Et à mes parents. C'est aussi la raison que je n'avais pas le cœur de leur dire où je suis.
Vous avez entendu, tout à l'heure, en début d'émission, elle n'arrive plus à vivre en Israël. Elle ne dort plus. En fait, elle est hantée. C'est ce poison des terroristes, cette peur des terroristes, elle la hante totalement.
Oui.
Je crois que vous l'avez rencontrée quelques jours.
Alors, je l'ai rencontrée il y a 2 jours de ça à l'Iftar, qui était organisé par l'imam Chalgoumi. Elle a une fragilité et une force en même temps. assez incroyable. Elle est touchante, évidemment, et elle est... On a juste envie de lui dire ça va aller, de la prendre, de la réchauffer et de lui dire de croire en l'avenir. Et en vrai, aujourd'hui, elle voyage. Je crois que quand elle a écrit son livre, elle était en Inde. Elle est partie se vider un peu la tête. Mais dans sa situation, une autre famille que nous assistons aussi, qui est rentrée en France et qui n'a pas pu, qui a vécu la même chose à peu près, mais dans le kibbutz Niroz où les terroristes sont venus frapper à la porte et n'ont pas réussi à rentrer. Ils sont revenus, ils se sont repris à 3 reprises. Et elle était de l'autre côté de la porte avec son petit garçon. Et au final, ils n'ont pas pu non plus rester vivre en Israël. Ils sont revenus en France.
Autre extrait, lorsque Laura sort de l'endroit où elle s'était cachée.
En fait, le moment qu'on est sorti de la caravane, au lieu d'être le meilleur moment de la journée, c'était le pire moment de la journée. On a vu le vrai massacre. Des dizaines de jeunes personnes étalées par terre. Et ils sont tous bien habillés, les filles en jupe, maquillées, un peu déguisées. Ils étaient là pour un festival de musique. Tout le monde s'est habillé avec beaucoup de couleurs. Et ils sont tous étalés morts par terre. Et on voit très vite la différence entre quelqu'un qui a été tué et quelqu'un qui a été blessé et achevé après, parce que ça se voit. Et on voit la différence, parce qu'il y avait des terroristes qui étaient habillés en civil, mais on voit la différence, ceux qui sont avec un bracelet bleu, qui étaient venus pour danser, et ceux que non. Et c'est 200 mètres que j'ai dû courir, et courir au-dessus des gens, faire attention de ne pas les toucher, c'est 200 mètres que je n'oublierai jamais.
Les silences, ce matin, les silences de Laura étaient terribles. Son livre, on avait parlé, effectivement, elle fait la promotion de son livre, qui s'appelle Croire en la vie. Mm. Qui est quelque chose de positif. Je voulais qu'on écoute un troisième extrait quand elle explique sa pire angoisse, être violée.
Je prie de mourir vite, parce qu'à midi et demi, on avait déjà vu les médias, on savait déjà qu'il y avait des otages. Et entre moi et moi-même, la décision est claire, je préfère mourir ici et ne pas être reprendre à Gaza. Et ma plus grande peur était plus de mourir, j'avais peur d'être prendre, j'avais peur d'être touchée, d'être déshabillée, d'être violée. Je préférais mourir sur le coup.
C'est un témoignage qui est bien sûr bouleversant, mais ce qui est bouleversant aussi, c'est que tout le monde a oublié ce qu'a vécu cette jeune fille.
De toute façon, tout le monde semble avoir oublié le 7 octobre.
Oui, mais c'est, précisément, c'est ce que je veux vous dire. Tout le monde a oublié ce qu'elle a vécu. Qui pense encore au 7 octobre? Qui en parle encore? Qui sait encore qu'Israël est en train de mener une guerre à Gaza à cause du 7 octobre? Maintenant, pour une partie importante de la population, des responsables politiques qu'on a évoqués, si Israël est à Gaza, c'est pour commettre un génocide et se sert du 7 octobre comme prétexte. C'est ça maintenant ce qui est dit dans un certain nombre de médias, par un certain nombre de responsables politiques.
Avec un nouveau narratif qui dit c'est une colonisation, depuis le départ c'est une colonisation, etc. Les colonisateurs.
Mais ce qu'a vécu cette jeune fille, c'est une réalité.
C'est une réalité et c'est ce qu'on doit avoir en tête en fait. Et ce type de témoignage, il y a son témoignage à elle qui est très fort, il y a le témoignage d'Amit Soussana.
Ben on va écouter.
Qui va expliquer en fait les agressions sexuelles qu'elle a subies. Et ces personnes qui sont survivantes, Amit Soussana a été prise en otage. Cette jeune femme n'a pas, heureusement, n'a pas été prise en otage. Mais on voit au travers de leur témoignage la réalité de ce qu'a été le 7 octobre et la réalité de ce qu'est toujours le 7 octobre. Le 7 octobre n'est pas terminé. Il y a encore 134 personnes qui sont entre les mains du Hamas à Gaza. Et à l'heure où nous parlons sur ce plateau, il y a des jeunes femmes qui sont entre les mains des violeurs du Hamas.
Alors, effectivement, Amit Soussana a donné un entretien au New York Times. C'est la première otage, ex-otage plutôt, à parler de viol, à parler de violence sexuelle. Elle avait été libérée en même temps que Mia Shaim. Mia Shaim a donné des interviews. On a bien senti qu'il y avait un tabou, qu'il y avait un silence autour de cette question. Sans doute aussi que Mia Shaim, pas l'affirmer, elle ne l'a pas dit elle-même, mais sans doute qu'il s'est passé la même chose que pour Amit Soussana qui a raconté son histoire.
Plusieurs jours après son enlèvement, enfermée dans une chambre d'enfant et enchaînée à la cheville gauche, un ravisseur a commencé à lui poser des questions sur sa vie sexuelle. Aux alentours du 24 octobre, son geôlier lui a enlevé cette chaîne et l'a laissée dans une salle de bain.
Il m'a assise au bord du bain et j'ai fermé mes jambes. J'ai résisté.
Il n'arrêtait pas de me frapper et de me mettre son arme sur le visage. Puis il m'a traîné jusqu'à la chambre. Il m'a forcé avec l'arme pointée sur moi à commettre un acte sexuel.
Il s'agit d'un témoignage horrible. C'est un signal d'alarme. Un appel au monde à agir. À faire tout ce qui est en son pouvoir et à faire pression sur le Hamas pour qu'il libère nos otages.
Ce qui est terrible, c'est que les témoignages, les jeunes filles qui ont été libérées commencent à parler, on a des témoignages terribles. Ces associations de femmes qui, le 8 mars, ont voulu défiler à Paris en soutien à ces femmes qui ont été violées, torturées, et pour certaines qui sont encore violées actuellement, se sont fait sortir de la manifestation au nom de sales juives, sales putes. C'était à Paris en 2024, alors qu'elle ne faisait que défendre le droit des femmes et des femmes qui avaient été violées. Et vous savez, voilà où on en est, voilà où on en est aujourd'hui.
Et vous savez qu'il y a encore aujourd'hui des groupes de femmes, on a trouvé une affiche, oui. Parce que tu peux t'attendre à une solidarité féminine, en particulier en France. Maintenant, ici, on préfère publier un tract où il est écrit « Le sionisme n'est pas une cause féministe ». Donc, cette jeune fille qui vient de témoigner, dont vous avez entendu le témoignage, elle ne fait pas partie de l'histoire.
Non, elle ne fait pas partie de l'histoire parce qu'elle est juive et parce qu'elle est israélienne. C'est ça la réalité. Oui. On la retranche de l'humanité, en fait. On la retranche de l'humanité, on la retranche du monde des femmes, on la retranche de la solidarité, de la sororité, elle n'y a pas droit. Elle est juive, elle est israélienne, elle n'y a juste pas droit. Et ce que je souhaite dire ici aux personnes qui nous entendent, c'est ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Comprenez pourquoi Israël se bat autant pour récupérer ses otages et se bat autant pour récupérer ses femmes. Voilà ce qu'elles subissent.
Je rappelle qu'il y a 3 franco-israéliens qui sont toujours en main du Hamas, Ofer, Orion, Ohad. Chaque soir, on rappelle et on montre leur visage sur le 173e jour. Juste pour terminer, vous allez nous donner une dernière décision qui est très importante. Un mot, Johan.
Oui, simplement sur cet acte. Oui. Qui produit cet acte? Qui a prononcé ces mots dans les rues de Paris? Sale juif, sale pute, etc. C'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. On savait avant le 7 octobre que l'extrême gauche était sectaire. On sait depuis le 7 octobre qu'elle est sectaire et antisémite.
Une décision, justement, a commencé l'émission là-dessus. C'était important, mais il y en a une deuxième.
Il y a une décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Nanterre aujourd'hui. Une décision pour des faits de menaces de mort à caractère antisémite. La sanction qui est tombée particulièrement lourde, c'est 30 mois de prison, dont 15 fermes. 15 fermes avec un placement en détention, un maintien en détention pour cette personne. Qui a bénéficié d'une altération du discernement. C'est ce qui explique que les réquisitions qui étaient à 4 ans étaient un petit peu en deçà.
Comme toujours,
mais c'est 30 mois pour des menaces de mort aggravées et plus de 8000 euros de dommages et intérêts.
C'est très
donc
important.
Avis aux amateurs, voilà ce qui se passe aujourd'hui lorsque l'on menace de mort avec une circonstance aggravante d'antisémitisme. Voici les décisions qui sont aujourd'hui rendues par nos juridictions françaises.
Bon, François Pony, on va terminer là-dessus. Vous deviez participer à un débat.
Moi, j'avais été invité par une association de jeunes juifs qui s'est constituée à faire un débat contre Éric Zemmour. Et puis, c'est les responsables communautaires et le maire de Sarcelles qui ont décidé d'annuler ce débat, considérant que c'était trop risqué. Et que ça, voilà. Ça veut dire que,
trop risqué pour
globalement, pour la communauté, comment ça pouvait être interprété, ça pouvait être pris pour une provocation.
Organisé par des juifs.
Bien sûr. On devait faire ça dans une salle où, il y a 15 jours, la ville avait prêté la salle pour un meeting pro-Gaza. Hein. Bon. Donc, on peut parler de Gaza. On peut parler du Hamas, mais on ne peut pas débattre avec certaines personnes parce que la communauté pense qu'elle peut en être rendue responsable et donc en subir les conséquences. Voilà où on en est dans ce pays.
Merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Muriel, François Pouponi, Johan. On se retrouve demain. Évidemment, pour la dernière émission de la semaine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, 22h30, Soir Info. Et puis avant 22h, le journal de Maureen Vidal. Je remercie Jade Roger et Adrien Fronteau qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bye bye.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.